Huysmans, le quartier Notre-Dame. Tous les historiens de Notre-Dame ont cité le mot de l'un des anciens chroniqueurs de cette cathédrale. Elle terrifie par sa masse. Et le fait est qu'elle est sombre et énorme. Elle ne suscite pas l'image de ce printemps de la pierre qu'évoquent les végétations fleuries d'Amiens, de Reims et de Chartres. Avec sa façade noire et nue, elle dégage une impression de malaise et de froid. Elle est une basilique hivernale. On ne la sent point aimer, ce Paris qu'elle domine. Elle n'a pas ce geste de Notre-Dame de Chartres, dont les deux clochers semblent les doigts levés des vieux évêques, prêts à bénir la ville agenouillée à leurs pieds. Ses bras à elle se dressent et ils menacent plus qu'ils n'implorent. En tout cas, elle cache ses mains dans ses manches de pierre et se refuse à signer les foules. Elle n'est pas, pour tout dire, un sanctuaire bon enfant, une cathédrale maternelle. Mais c'est peut-être aussi la faute des siens. Elle a été vilipendée, spoliée par eux, comme pas une. Et elle se désintéresse de leur peine. Que subsiste-t-il d'authentique dans cette église ? L'ossature dont d'incessantes réparations n'ont pas trop adultéré les contours et les deux roses du transept qui sont demeurées presque intactes. Le reste est neuf. Les verreries de la nef, du chœur, des chapelles ont été brisées et des peintures cuites par d'absurdes vitriers les remplacent. Le jubé a été démoli. Le vieil autel avec ses colonnes de cuivre de sa pyxide suspendues a été jadis bazardé, on ne sait tout. La statue colossale de Saint-Christophe, qui se tenait debout à l'entrée du vaisseau, a disparu, de même que les stalles du XIVe siècle. Quant aux châsses, elles ont été fondues par des sans-culottes, et les carreaux noirs et blancs d'un jeune dame supplé aux pierres tombales, gravées d'effigies et d'inscriptions, qui pavaient autrefois son sol. Le XVIIIe siècle a commencé ses déprédations, et la Révolution les a finis. Notre époque, qui voulut soigner Notre-Dame, s'est bornée, pour sa part, à la gratter et à la rafistoler du haut en bas. Le fameux violet, le duc, l'a rajeuni, lui a raclé l'épiderme, l'a poncé, de telle sorte qu'elle a complètement perdu sa patine de prière, sa houille de cire, son hâle d'encens. Telle qu'elle est, elle résume néanmoins encore une magnifique calure avec sa nef plantée de lourds piliers, son arc triomphal ouvrant sur la baie géante du chœur, ses colonnes filant d'un jet jusqu'aux voûtes. Sans doute, elle n'a pas la légèreté des basiliques d'Amiens de Chartres qui s'effusent ravies en plein ciel. Elle ne sort pas d'elle-même, elle tient à la terre et ne s'en arrache point. Mais ce qu'elle demeure majestueuse et ce qu'elle apparaît à cause même de sa pesanteur grave. Elle semblerait en somme plutôt dédiée au dieu sévère de la Genèse qu'à l'indulgente vierge, si la gracilité de son transept ne vous révélait qu'elle est bien en effet placée sous le vocable de Marie, et qu'elle s'y file à son image, et qu'elle sourit divinement, et qu'elle s'humanise. Ce transept est la partie vraiment supérieure de Notre-Dame. Les murs s'émincent et, pour s'alléger encore, cèdent la place au vert. Et les deux roses sont des roues du feu, au moyeu d'améthyste, des roues où le violet de cette gemme, symbole de l'humilité et de l'innocence, domine. C'est une féerie quand le soleil pénètre dans le vide vidré des trous. Il allongerait un menuisier de pierre. À lui entre eux, des grappes de flammes fulgurent comme un bouquet d'artifice dans le cercle radié des jantes. Ce sont les roues en ignition du chariot d'Élie, et l'on dirait également de ces touffes attisées de lueurs, de fleurs de braise écloses dans une serre ronde de verre. La gloire de Notre-Dame de Paris est là, et non dans ses façades vantées. La vérité est que son extérieur ne vaut plus que par sa masse. Tout Toutes les statues sont retapées ou entièrement réduites, si bien que la flore délicieuse d'art qui montait naguère, ainsi qu'un long d'un espalier le long de ces murs, est morte, et qu'elle a été remplacée par une végétation toute moderne d'ornements et de statues fabriquées à la grosse, d'après les modèles des sanctuaires d'Amiens et de Chartres. Il n'y a donc à s'extasier ni sur ses portails, ni sur ses voussures en vieux neuf, ni sur sa flèche datée de 1859. Sur pas grand-chose, hélas, car la coque brute de ses pierres et ses deux lourdes tours, qui présentent cette particularité de ne jamais se faire ombre, demeure seule, presque indemne. Mais si au point de vue de l'art, cette cathédrale n'est qu'une œuvre de second ordre, elle n'en est pas moins intéressante pour d'autres motifs. Elle diffère de ses congénères. Elle est plus mystérieuse que ses sœurs, plus savante et moins pure. Elle n'est pas autant à Dieu que les autres, car elle recèle les secrets interdits, entre sur la symbolique chrétienne, les formules de la Kabbale, est tout à la fois catholique et occulte. Ainsi, les trois portes de sa façade principale, qui sont désignées par des archéologues sous les noms de Porte du Jugement, Porte de la Vierge et Porte de Sainte-Anne et de Sainte-Marcel, allégorisent, suivant certains occultistes, la mystique, l'astrologie et l'alchimie, ces trois sciences en honneur au Moyen-Âge. Et cette dernière baie sur le trumeau de laquelle Saint-Marcel, 9e évêque de Paris, se dresse, foulant aux pieds un dragon qui s'échappe du cercueil d'une femme adultère, contient avec ses figures hiéroglyphiques le récipé du grand œuvre, la recette de la pierre philosophale. L'on trouvera dans un traité de Gobineau de Montluisant, l'un des hermétistes du XVIIe siècle, la description secrète de cette porte qui, avec la tour Saint-Jacques et quelques carreaux de la Sainte-Chapelle, constitue le dernier texte lapidaire des légendes spagyriques d'antan. Derrière Notre-Dame s'étend maintenant un square. Jadis, le jardin s'épandait jusqu'à la pointe de l'île et servait de lieu de promenade aux chanoines du chapitre. Un cartulaire de 1250 appelait ce terrain « Motta Palpalordorum », la motte des gens d'église. La morgue s'est substituée à ses bosquets et ses dalles, aux pelouses. Puis, pour aller dire le site, l'on a construit sur la gauche, au bout de la rue du Cloître, le gigantesque bâtisse qui masque du côté de l'île Saint-Louis, la vue de la cathédrale. On a préservé le musée de Cluny du blocus qu'il menaçait, et personne n'a songé à sauver Notre-Dame. Cette rue du Cloître qui longe la basilique garde encore, à son entrée, près de la place du Parvis, quelques vieilles bicoques dont les façades se reculent, comme gênées de céder le pas à des maisons neuves. Elle a été d'ailleurs parée d'un bien étonnant palais de briques, agrémenté de deux tourelles pareilles à des fûts, que surmontaient deux citrouilles, la queue en l'air, et ornées sur toutes ses faces de peintures allégoriques, telles que l'humanité, la famille, le négoce et l'hygiène. Le monument, qui fut commandé par feu M. Rouel, est utilitaire et plaisant, car il s'emploie à deux fins, étant à la fois une resserre pour voiture et une salle pour chansonnettes, de concerts et pièces de théâtre. Plus intéressante est la rue chanoinesse, qui a si bien montré son respect provincial décrit dans l'univers de l'histoire contemporaine de Balzac, qu'il est difficile de s'y promener sans évoquer le mélancolique souvenir de Madame de la Chanterie et du petit couvent laïque qu'il fonda. Cette voie a conservé ainsi que ses centres qui l'entourent, la rue Massillon, la rue des Ursins, la rue des Chartres, ses hautes fenêtres, ses portes cochères aux vantaux couleur de verre de bouteille ou de pain d'épices, munis d'énormes marteaux et carrelés de clous. À l'heure actuelle, elle est encore dénuée de boutiques, mais son silence de guerre n'est plus, car la plupart de ses bâtisses, acquises par un quincaillier, sont devenues des dépôts d'appareils de chauffage et d'ustensiles d'hydrothérapie et de cuisine. Et c'est dans l'après-midi un perpétuel va-et-vient de camions et d'hommes. Bien qu'elle foisonne de souvenirs, elle ne dit plus rien. Le 16, où vécut Racine, est quelconque. Le 17, qui est l'ancienne maison capitulaire, est non moins banal et non moins laid. Il faut pénétrer dans l'intérieur même de ces bâtisses pour les entendre enfin parler et pour y découvrir parfois les plus curieux vestiges qui subsistent d'un Paris mort. L'on demeure surpris alors en s'apercevant que des morceaux entiers d'édifices datant du Moyen-Âge et même d'avant vivent enfouis sous la croûte de masures à peine âgées, de masures presque neuves. Le 18 et le 20, qui se formèrent jadis qu'un seul hôtel, recèle le monument le plus étrange de tous, la tour de Dagobert. Oh, il est peu probable que ce roi y ait habité, et qu'elle ait même été construite sous son règne. Mais ce n'en est pas moins bizarre. Et on est transporté bien loin de notre temps, lorsque, après avoir traversé une vieille cour, convertie en une sorte de hangar, et parcouru d'obscurs couloirs formés par les haies de calorifères empilés les uns par-dessus les autres, l'on grimpe son escalier en vrille, dont la tige de chêne s'élance d'un jet, en virevoltant sur elle-même, du bas de la tour jusqu'à sa cime. L'on monte dans l'ombre et peu à peu les marches s'éclairent. Des pièces massives s'ouvrent de tous côtés, des pièces aux murs énormes, au plafond dénudé, rayées par des saillies brunes de poutre. Et finalement, l'on aboutit en plein air par une vague de chauguette sur une plateforme de zinc. À quelques pas de là, se profile le vaisseau de Notre-Dame, dont les arcs boutants semblent les côtes décharnées d'un être préhistorique, d'un mammouth immense. Les monstres installés sur les balcons de la tour du Nord nous regardent, et ils paraissent narguer l'étonnante ligne des toits qui zigzaguent sous nos pieds. C'est un chaos superposé de tuiles, un amas de derrières de maisons que rejoignent des ponts de sapin, des galeries de bois. Un Paris inconnu gît là, dans cet envers de la rue du Cloître. Un fleuriste à un quatrième étage cultive ses fleurs et élève des colombes dans de vastes cages en saillie sur des allées de planches. Des loques sèchent de tous côtés, des gens scient leurs bottes au dehors, vont d'une fenêtre à l'autre, se promènent derrière les parapets, le long des maisons, sur des charpentes. Et c'est entre ciel et terre une cour des miracles, et cela tient de l'échafaudage des peintres en bâtiment et de la maringotte de forains. Vous tournez la tête à droite, et au-dessus de prises d'air de l'hôtel de Dieu, des parafoutres s'effilent, et la tour Saint-Jacques surgit, dernier souvenir d'une église dont les restes servent d'observatoire à des météorologistes, à des joueurs de longitude, qui ne contemplent plus le ciel que pour y chercher et pour y coter, en un langage de bourse, les moyennes et les dépressions, des hausses et des baisses. Vous regardez à votre gauche, puis derrière vous, et après l'opulente cambuse de M. Ruel, l'église de Saint-Paul et de Saint-Louis, celle de Saint-Gervais et cet édifice de camelot qu'est l'hôtel de ville, emplissent l'horizon et barrent la vue. C'est à peine d'ailleurs si l'on peut exécuter quelques mouvements sur la terrasse de cette tour du roi Dagobert, car sa plateforme est minuscule. Jadis, paraît-il, une autre tour s'élevait auprès d'elle. L'on n'en retrouve aucune trace. En 1857, une vigne de 300 ans existait encore dans la cour. On l'a arrachée et la cour est maintenant ouverte. On ne possède aucun renseignement précis sur les gens qui se succédèrent dans cet hôtel. Tout ce que l'on sait, c'est qu'il appartenait avant la Révolution à l'abbé de Réglin, chanoine titulaire de Notre-Dame. Quant au corps de logis, il date du XVIe, XVIIe et XVIIIe siècle. Mais toutes les boiseries sont enlevées. Les uns sont des dortoirs remplis de lits de camp à l'usage des employés et de la fabrique. Les autres sont des magasins bourrés, du sol au plafond, de meubles de cuisine et de jardin, de calambreuses et de poêles, de tubes qui font songer aux formidables œufs sur le plat que l'on pourrait cuire. Et si l'on pénètre enfin avec des lanternes dans les caves, il faut se courber en deux, aller et venir dans tous les sens. Arrivés à une certaine profondeur, les escaliers cessent et des pentes qui dégringolent sous des voûtes de plus en plus basses vous mènent dans de nouveaux souterrains, lesquels vous conduisent dans d'autres boyaux, et les embranchements se multiplient pour n'aboutir à rien, car ces galeries qui atteignaient autrefois les rives de la Seine sont bouchées. Une autre antique maison, le 19, est à un autre point de vue surprenante. Sous l'énorme hangar qui remplace l'ancien préau et qui ne laisse plus filtrer par les vides de son toit qu'un peu de jour, deux fenêtres habillées de petits rideaux de mousseline sont closes. Et devant elles, une forque de tuyaux de poêle se dresse. Je me demande ce qu'il peut bien y avoir derrière ces fenêtres et j'apprends ceci. Ces croisées sont censées éclairer deux pièces que des locataires habitent. Jadis, quand elles s'ouvraient à la hauteur d'un rez-de-chaussée, sur une cour, elles permettaient à ces gens de ne pas marcher, même par les moins sombres des après-midi, à tâtons, dans des chambres exhalant une odeur continue d'armoire. Mais depuis qu'elles sont encloses dans le hall, elles vivent en pleine obscurité, dans un air qui ne se renouvelle plus, l'été surtout, car pendant cette saison, ces alliés de tuyaux s'épaississent devant elles en attendant l'hiver. Tout ce matériel entassé ne partira en effet qu'aux approches du froid. Ce n'est donc que vers la fin de l'automne que l'on pratique des coupes dans ces futaies de tôle qui ne suggèrent même point l'illusion d'un peu de nappe peinture, d'un peu de nuage courant sur le sommet, puisqu'elles ne fument pas. Alors, si la neige ne vient pas à s'amonceler sur les carreaux du toit, les habitants de ces geôles peuvent voir à quelques pas devant eux, mais cette surprise est compensée par la poussière et par le vacarme des engins qu'on déménage. Devant la tanière de ces malheureux, j'ai rêvé à d'inexorables misères. Mais mon apitoiement fut rabroué lorsque je sus qu'ils payaient pas un loyer de moins de 800 francs. 800 francs pour gîter dans un chantier de tuyaux de poêle mort, mais c'est un comble. Ces immeubles appartenaient jadis au chapitre de Notre-Dame. Ils faisaient alors partie d'un petit hameau qui vivait à part et très gaiement dans la grande ville. Un volume de l'abbé Charrier, l'ancien chapitre de Notre-Dame de Paris et sa maîtrise, nous renseigne sur les mœurs et sur ses habitants. Dès le XVIIIe siècle, ce chapitre comprenait 8 dignitaires élus et 52 chanoines. Le doyen était élu par ses collègues ainsi que le sous-chantre. La nomination des autres dignitaires, tels que le pénitencier et les 3 archidiacres de Paris, de Josas et de Brie, revenait de droit à l'évêque. Le chapitre possédait une immense personnelle qu'il régissait à sa guise. Il était dispensé de toute redevance et de tout impôt, et il ne relevait pas de la juridiction épiscopale, mais bien du Saint-Siège. Le cloître était sa propriété. Tout d'abord, les chanoines durent seuls s'y fixer, mais dès le XVe siècle, leurs parents et leurs habits s'y installent, et le vacarme commence. Des plaintes se produisent, mais elles ne semblent pas avoir été écoutées. Car au XVIe siècle, l'aspect mondain et bruyant de ces lieux s'accroît. Au XVIIe siècle, il augmente encore et les chanoines déplorent qu'il y ait tant de chambrières dans les maisons et protestent contre l'invasion des carrosses qui roulent dans le quartier après minuit. Et au XVIIIe siècle, le désordre est à son comble. Cette petite population de prêtres, d'enfants de cœur, de chants de gens que d'anciens statuts qualifient de machicots et de clercs de machines, est noyé dans un amas de familles qui ont fini par s'emparer des hôtels et des églises, des corridors et des rues. Les chanoines continuent de gémir, mais la Révolution répond à leur doléance en les supprimant. Et depuis ce moment, le cloître appartint à chacun et fut, comme tous les quartiers de Paris, un quartier laïque. Pour parfaire la physionomie de la paroisse, on peut citer encore deux anciennes rues, la rue de la Colombe, dont le nom figure déjà sur une charte de 1223, mais elle a perdu tout caractère, et les rues des Ursins et des Chantres, celles-là vivent loin des intruses, entre elles. La rue des Chantres, ainsi qualifiée au XVIe siècle, parce que le cœur de la cathédrale y résidait, semble ignorer que tout un Paris moderne existe. Elle descend tranquillement, sans que jamais un chat y passe, vers la Seine, entre deux rangs de murs, qui sont des dos de bâtisse percés, à gauche de lucarnes à barreaux de fer, à droite de hautes fenêtres ouvertes, presque au ras du sol, et derrière lesquelles on perçoit dans l'ombre de probables cantonniers et de possibles tables. Une seule porte se rencontre sur cette voie, près du quai. C'est d'un hôtel sinistre dit des deux lions. Et ce garni, flanqué d'un mannequin, tiendrait, si vous en croyons le feu, la place de l'immeuble qu'habitèrent Héloïse et Abélard. Si la rue des Chantres a conservé jusqu'à nos jours son nom, il n'est pas de même de sa voisine. Celle-ci a été baptisée et débaptisée, rebaptisée, sans mesure. On la voit tour à tour indiquée sous le vocable de Grande Rue de Saint-Landry, sur l'eau, de Rue de Port-Saint-Landry, sur le plan de Bâle de 1552, de Rue Basse du Port-Saint-Landry, de Rue d'Enfer, sur le plan de Turgot, de Rue Basse des Ursins et enfin de Rue des Ursins tout court. La taille de Paris au XIIIe siècle relève parmi ses habitants trois taverniers et une dame Agnès, au surnom mystérieux de la prêtresse. De même que la rue des Chantres, la rue des Ursins est composée de derrière de maisons, dont les visages appartiennent les uns à la rue Chanoinesse et les autres au quai aux Fleurs. Aussi, presque toutes ces portes, quand elle en a, sont-elles condamnées? Elle est une paralysée des membres inférieurs. Mais son buste est encore libre, car des croisées s'y ouvrent et des baies y vivent. Tel ce quartier Notre-Dame, qui compta jadis, en sus de la cathédrale, quatre églises considérées ainsi que ses annexes. Saint-Jean-le-Rond, qui fut le baptistère de Notre-Dame, et la paroisse de laïque demeurant dans le cloître, était située le long de la basilique, là où s'aperçoit l'entrée des tours. Suivant le bœuf, elle datait du XIIIe siècle. Elle a été démolie en 1748. Saint-Aignan, fondé par Étienne de Garlande, vers 1120, et dont les débris agonisent encore dans les bâtiments qui donnent sur le numéro 19 de la rue des Ursins et le numéro 26 de la rue Chanoinesse. Saint-Denis, érigé à si peu de distance de l'abside de Notre-Dame, qu'on appela Saint-Denis du Pas. Celle-là remonterait au IXe siècle et aurait péri en 1831. Enfin, Sainte-Marine, qui naquit en 1228 du temps de Guillaume III, évêque de Paris, fut plus spécialement réservée au mariage des personnes séduites avant l'heure et plus particulièrement fréquentée par les serviteurs de l'évêque. Ces chapelles, qui furent toujours pleines de fidèles au temps où le peuple croyait dans notre Seigneur, sont toutes les quatre mortes. La cathédrale subsiste seule maintenant, et elle est, elle-même, du soir au matin, déserte. Les passagers, parmi les vivants, sont des touristes qui croassent en feuilletant des guides, et parmi les défunts, des cadavres venus de l'Hôtel-Dieu et voisins, des dépouilles sans le sou, et que l'on expédie au galop, Dieu sait comment.